Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Ce matin, nous écoutons le dernier cours du professeur John Shedd, titulaire de la chaire au Collège de France, Religion, institutions et sociétés de la Rome antique, consacré aux questions romaines de Plutarque, dont l'organisation en 113 questions a tant surpris que certains n'ont voulu y voir que des notes de lecture pour un ouvrage mieux composé. Lisant le texte question après question, John Shedd a souligné au contraire qu'on avait affaire là à un ouvrage abouti. L'apparent désordre trouve en effet son sens, a-t-il montré, dans un parcours dans le centre de la Rome antique, dans lequel Plutarque entraîne son lecteur et où les questions sont suscitées par les monuments qu'aperçoit successivement le promeneur du Forum au Capitole. Cet ordre topographique étant cependant interrompu et masqué par des digressions où les questions s'enchaînent par association d'idées. Au début de ses conclusions, John Shedd a observé que le territoire parcouru est tout petit. C'est en effet celui de la Rome primitive. Rien sur les nouveaux forums impériaux, rien sur le Colisée, ni sur les nouveaux palais. C'est une Rome archaïque qu'évoque Plutarque. Ce n'est pas à un touriste moderne qu'il s'adresse, mais à un curieux qui, en parcourant le forum et en gravissant le Capitole, cherche à comprendre les énigmes de ces coutumes primitives qui renvoient à des histoires de bergers, de louves, de femmes coupables ensevelies vivantes, de sacrifices expiatoires, etc.
Quelle est l'originalité de cette façon d'exposer un ensemble de coutumes romaines? Et pourquoi, bon Dieu, Plutarque l'a-t-il choisi? L'originalité des questions romaines consiste, je le répète encore, dans le fait qu'elles sont très soigneusement construites, avec des transitions entre questions qui sont clairement décelables, mais qu'elles ne possèdent pas d'autre structure générale que celle que j'ai essayé de mettre au jour. En un mot donc, est-ce que cette hypothèse est une simple folie, une surinterprétation de quelques coïncidences, ou bien est-ce une technique de structuration littéraire attestée ailleurs dans le monde antique? Les questions romaines de Plutarque s'inscrivent-elles dans une tradition, ou bien sont-elles complètement isolées? La première réponse à ces interrogations a été donnée par notre cheminement. Il ne s'agit pas de coïncidences surinterprétées, j'espère vous en avoir convaincu. La structure topographique est bien présente à l'arrière-plan du traité. Allons donc plus loin. Nous pouvons d'abord nous demander si Plutarque lui-même a utilisé la promenade dans d'autres traités, à commencer par les questions grecques. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à comprendre la logique interne des questions grecques. Jacques Boulogne note que, contrairement aux questions romaines, les questions grecques concernent beaucoup moins le passé que le présent, ce qui constitue une différence nette avec les questions romaines, d'après lui. D'autre part, il constate le grand morcellement du monde grec décrit et propose que cet éparpillement soit par défaut une sorte de principe organisateur. Enfin, même si les questions grecques ne sont pas rapprochées dans le catalogue de l'Amprias des questions romaines, il est possible, selon Jacques Boulogne, que ces deux traités devaient représenter, je cite, une sorte de diptyque ethnographique en puissance, au second volet inachevé, et probablement inspiré par une stratégie idéologique de médiation culturelle, cherchant à mieux faire prendre conscience à des étrangers, mais également aux Grecs eux-mêmes, face à l'unité romaine, de la grande diversité hellénique. Cette unité séduisante, qui peut même nous intéresser directement. Mais il n'est pas certain que les questions grecques aient été inachevées. Et nous avons vu que les questions romaines l'étaient, en tout cas, au dire même de Plutarque. Pour nous, cela signifie que nous pouvons étudier ce traité comme une œuvre finie et complète. Il faudrait supposer que Plutarque ait songé à écrire un autre traité sur les Grecs, et qu'il ne l'a pas achevé. Je ne sais pas si on peut soutenir cela. Pascal Payen, quant à lui, relève des choix analogues dans les deux séries de questions, en ce qu'elle ne considère que l'histoire ancienne des deux mondes, et je crois qu'il a raison, celle qui est antérieure au Ve siècle avant notre ère. Il voit dans les questions grecques un complément aux questions romaines qui permet de comprendre l'intime liaison entre Rome et la Grèce, mais établit aussi l'antériorité de cette dernière. Les Grecs de Plutarque, conclut-il, sont à la fois des modernes et les anciens. Entre eux, indispensables médiateurs, les Romains, par qui s'opère la continuité, parce qu'ils font sans cesse le voyage de Grèce pour comprendre leurs propres coutumes, et parce que les Grecs, dans le cheminement des deux questionnaires, finissent par entreprendre le voyage de Rome. En somme, les questions comme forme accomplie du voyage. Cette hypothèse aussi est très séduisante, même si ce n'est pas la seule solution du problème. Donc pour l'instant, on continue de chercher, mais on a déjà deux hypothèses. Les questions grecques ne peuvent donc pas répondre à notre demande. Si nous prenons maintenant les autres écrits, les autres œuvres de Plutarque, nous constatons que dans certaines de celles-ci, l'auteur construit d'abord un contexte spatial et temporel dans lequel il met en scène ses discussions. Souvent, il s'agit, comme chez Platon, d'un endroit donné où un groupe de personnes discute d'un problème. Nous avons vu que dans les problèmes de banquet, Plutarque met en scène des dîners au cours desquels un groupe d'amis discute sur des questions diverses, comme par exemple celle de la coutume concernant la table et la lampe, vous vous rappelez. Dans le traité sur le epsilon, le E de Delphes, Plutarque se borne à raconter que la question de la signification de cet E lui avait déjà été demandée plusieurs fois par ses élèves, notez la mention des élèves, et qu'il l'avait éludée. Mais quand ses fils et quelques étrangers qui étaient sur le point de quitter Delphes lui reposèrent la question, il accepta finalement, écrit-il, d'y répondre. Il les fait s'asseoir le long du temple d'Apollon, à Delphes, et amorce la discussion. Donc un cadre topographique qui est en rapport avec le sujet. Ou plus exactement, un lieu et une discussion qui remettent en mémoire à Plutarque ce que, autrefois, à l'époque de la visite de Néron, dans les années 60 après Jésus-Christ, nous avions entendu dire à Ammonios, le maître de Plutarque, et à quelques autres, au cours d'une conversation tenue au même lieu, sur la même question. Donc c'est un lieu qui rappelle à Plutarque une pertinence, on parle d'Apollon, de Delphes, des grands mystères d'Apollon, le epsilon, pourquoi on offre un epsilon à Apollon, et ce qu'il se rappelle en ce lieu, c'est une discussion érudite qui a eu lieu autrefois. Un parcours plus long est mis en scène au début du traité sur la disparition des oracles. Le traité commence alors que Plutarque discute avec quelques compagnons, puis nous lisons. Déjà, avançant ainsi depuis le temple, nous étions parvenus à la porte de la lesquée des Cnidiens. Il s'agit d'un lieu couvert. En y entrant, nous aperçûmes des amis que nous étions venus trouver. Ils étaient assis et nous attendaient. Plutarque et ses compagnons s'assoient avec eux et une discussion sur la divination débute. Le texte nous permet donc de comprendre que le débat décrit au tout début, dans les premières lignes du traité, se faisait pendant que Plutarque se rendait à pied du temple d'Apollon de Delphes à la lesquée des Cnidiens. Le reste de la discussion se déroule et se conclut à cet endroit. Donc un déplacement encore. À chaque fois qu'il y a un dialogue, il y a un cadre et souvent des déplacements. Mais le texte qui s'approche le plus du nôtre est toutefois le dialogue intitulé « Pourquoi la Pythie ne rend-elle plus d'oracle en vers ?» Deux interlocuteurs, Pasiloclès et Philinos, s'entretiennent sur la visite des monuments de Delphes faite par Philinos avec un étranger. Pasiloclès constate qu'ils se sont attardés et qu'il ne les a pas attendus. Philinos explique son retard à Pasiloclès par le fait qu'il cheminait lentement, en semant et en moissonnant aussitôt, dans l'ardeur de la polémique, des propos gros de controverse qui, tels les Spartes, naissait et croissait sous nos pas. Basiloclès exige de lui le compte-rendu de cette conversation et notamment l'origine ou le prétexte de leur entretien. Philinos commence ainsi son récit. Les guides, vous voyez donc quand on va à Delphes, même quand on est normalement éduqué, on a besoin de guides, on se fait conduire par des guides, des périégètes. Les guides récitaient leurs leçons de bout en bout, et nous avions beau les prier d'écourter leurs tirades et la plupart des inscriptions, ils n'en tenaient aucun compte. L'étranger n'était que médiocre, il y a un étranger qui les accompagne, hein. L'étranger n'était que médiocrement sollicité par la beauté et l'art des statues. Quelle statue ? En revanche, il s'étonnait que la patine du bronze ne ressemblât pas à de la crasse ou à du verre de gris. Suite une discussion sur l'ère de Delphes et la patine particulière du bronze. Vous aurez remarqué qu'aucune indication topographique n'est donnée. Des statues de bronze. Celle-ci, l'indication topographique, n'apparaît qu'implicitement un peu plus loin. Là-dessus, le silence se fit, et les guides reprirent le fil de leur tirade. Comme ils récitaient un oracle en vers, relatif, je crois, à la royauté d'Aegon l'Argien, Diogenianos dit qu'il s'était maintes fois étonné de la médiocrité et de la pauvreté des vers dans lesquels sont rendus les oracles. Et une première discussion sur la qualité des vers de la Pythie s'engage. Les commentateurs de ce dialogue ont depuis longtemps compris, grâce à l'indication initiale et à la suite du texte, que les interlocuteurs ont entamé la montée de la voie sacrée. L'allusion à l'oracle concernant Aegon d'Argos suggère que le groupe se trouve devant l'hémicycle des rois d'Argos, le numéro 2 de votre plan. Et nous comprenons du coup que la discussion précédente avait lieu devant le monument des amiraux des Navarques lacédémoniens, un ex-voto de 27 statues de bronze qui commémorait la victoire navale d'Aegos Potamoi qui termina en 405 avant Jésus-Christ la guerre du Péloponnèse. Que l'on place ce monument, on le place aujourd'hui au début de la voie sacrée, à peu près sous le numéro 1 de votre plan. Comme il s'agissait d'un groupe de 37 statues de bronze, vous comprenez pourquoi la discussion portait sur la patine du bronze. Nous avons donc une situation ici très semblable à ce que nous voyons souvent dans les questions romaines. Un sujet est évoqué sans que le lecteur n'apprenne où les interlocuteurs se trouvent. Ceux qui connaissent la topographie de Delphes ici comprenaient tout de suite, ou du moins à l'évocation de l'oracle d'Aegon, deuxième station, que l'on venait de longer le monument des Navarques pour s'arrêter devant l'hémicycle des rois d'Argos, qui ne paraît pas d'ailleurs, d'après ce que nous savons, contenir une statue d'Aegon. Celui-ci est évoqué, un des oracles le concernant, à propos des rois d'Argos. Et permettent ainsi un premier débat sur les vers de la Pythie. La discussion porte donc sur la qualité des oracles. Puis l'un des interlocuteurs invite ses compagnons à se taire et à laisser parler les guides. Écoutez le guide. À ce moment-là, raconte Philinos, nous étions arrivés à la statue d'Hieron le tyran. S'engage à propos d'un prodige qui s'était passé là, une discussion sur les prodiges. Les explorateurs du site de Delphes signalent qu'un fragment de base de statue avec le nom Hieron, donc Hieron, a été trouvé dans le secteur où nous sommes et se demandent s'il ne s'agit pas là de la base dont parle Plutarque. Mais le récit continue. Telle fut ma réponse à Boétos. Rapporte Philinos. Les oracles de la Sibylle provoquèrent des réflexions analogues. Nous nous étions arrêtés, en effet, près du rocher voisin du Boulotérion, et c'est sur ce rocher, dit-on, que s'était assise la première Sibylle, venue de l'Hélicon, où elle avait été nourrie par les muses. Et le débat sur les prophéties reprend. Elle concerne maintenant celle des Sibylles. Et nous constatons, pour notre part, que la promenade a continué. Nous nous trouvons un peu plus haut, à peu près au numéro 4 de votre plan. Un peu plus loin, nous lisons, donc discussion, puis tout en parlant ainsi, nous avancions toujours. Arrivés au trésor de Corinthe, nous regardions le palmier de bronze, la seule offrande qui reste encore. Nous n'avons pas avancé beaucoup et on comprend que le brave Basiloclès en a eu assez d'attendre ces éternels bavards que sont les érudits et qu'ils soient partis, parce qu'ils ont juste fait quelques pas pour arriver au numéro 4 d'abord et un peu plus loin au trésor de Corinthe. Parce qu'en lisant... On lit un peu plus loin, tout en parlant ainsi, arrivé au trésor de Corinthe, je l'ai dit, nous avons regardé le palmier. Donc, comme je l'ai dit, excusez-moi, le palmier et le trésor de Corinthe sont sous les yeux. Et cette fois-ci, la discussion porte sur les offrandes delphiques en général et sur l'origine du nom trésor des Corinthiens. Après que nous fûmes passés devant le trésor des Acanthiens et de Brasidas, continue Philinos, le guide nous montra l'endroit où se trouvaient autrefois les broches de fer de la courtisane Rhodopis, ce qui entraîne une discussion sur certaines offrandes, et notamment des offrandes émanant de personnes peu recommandables, comme Rhodopis. Le trésor des Acanthiens se trouve encore un peu plus haut, par rapport à l'endroit où nous étions, et les broches de Rhodopis, encore un peu plus loin, près de l'autel d'Apollon, du temple d'Apollon. Les broches servaient à la cuisine du sacrifice, et donc il est normal qu'elles se soient trouvées près d'un autel. Notons en passant que les périégètes, les guides, font voir également des endroits où autrefois il y avait des monuments et des ex-voto, et non seulement les bâtiments effectivement visibles. C'est un paysage un peu abstrait, érudit qu'on donne, où il y a des choses réelles et des choses dont Plutarque nous dit, il n'y a plus que le palmier, les grenouilles, etc. Enfin, d'autres monuments du trésor des Corinthiens ont disparu. À ce point, l'étranger commence à en avoir assez et les rappelle tous à l'ordre en réclamant la promesse faite de rechercher pourquoi la Pythie a cessé de prophétiser en vers. C'est pour ça qu'ils sont venus. Et ils posent les termes de la discussion. Philinos poursuit. Ayant donc fait le tour du temple, nous nous asseyons sur les degrés du côté sud de l'édifice, face au sanctuaire de la terre et à la fontaine, petite lacune de 12 lettres, ce qui fait dire aussitôt à Boétos que les lieux s'accordent avec l'étranger pour suggérer ce problème, car il y avait ici, dit-il, un sanctuaire des muses autour de la résurgence de l'écoulement où l'on prenait l'eau qui servait aux libations et aux aspersions. L'itinéraire est clair. Ce qui est à nouveau intéressant pour nous, c'est l'affirmation de Boétos que le lieu suggère un problème à discuter. Il est approprié. Pourquoi ? La fontaine des muses, l'inspiration, les oracles, la versification et l'eau, une résurgence pour se purifier comme la Pythie au moment où elle prophétise. Nous abandonnerons à ce point Philinos et ses amis pour revenir à notre propos. Nous avons constaté, à l'aide de ces exemples, que Plutarque n'ignorait pas du tout l'organisation topographique d'un ouvrage littéraire ou philosophique. Les traités des dialogues pythiques que nous venons de parcourir procèdent bien ainsi, et généralement de façon explicite, même si dans certains cas le lien avec un lieu précis n'est pas explicite, comme au début du dernier dialogue examiné, rappelez-vous. Et de la même manière que dans les questions romaines, les lieux déclenchent des discussions sur des sujets variés, parfois sur ce que le locuteur a sous les yeux, parfois sur un sujet complètement apparenté, seulement apparenté. Autrement dit, nous pouvons considérer qu'il n'y a rien d'incongru à supposer que Plutarque utilise la même méthode dans les questions romaines. On a l'impression qu'avec les questions romaines, vous avez la même chose au degré zéro. Vous n'avez qu'à introduire Philinos ou un Marcus, un Mestrius, et vous avez le même dialogue que ce dialogue pythique que nous avons lu. Cette technique rhétorique est bien attestée ailleurs. Prenons brièvement l'exemple du périégète par excellence, ou du guide par excellence, Pausanias, que j'ai déjà nommé. Si nous parcourons, par exemple, dans l'ouvrage de Pausanias, la ville d'Athènes, au IIe siècle de notre ère, nous retrouvons la technique utilisée par Plutarque dans les dialogues pythiques. Ce qui nous intéresse dans les visites de Pausanias est ceci. Il fait des allers-retours, il se livre à de longues digressions en fonction des monuments qu'il côtoie. Et les monuments choisis sont le plus souvent l'occasion de longues dissertations sur des sujets particuliers. Les Galates, Thésée, Pyrrhus le roi d'Épire, Attale de Pergame, comme chez Plutarque, au gré d'une association d'idées, d'une inscription lue sur la base d'une statue que l'on n'a même pas nommée, comme le remarque Jean Pouilloux dans sa préface à l'édition de la description de l'Attique. Le parcours de Pausanias est aussi peu rectiligne et unique que celui de Plutarque. Si vous regardez ce plan sur sa visite de l'Agora d'Athènes, vous voyez qu'il arrive du Dipylone, descend jusqu'à la Tholos, puis remonte, va ensuite, fait un tour sur la place centrale, s'en va, etc., avant de revenir pour aller ailleurs, pour aller vers un endroit que nous allons voir maintenant. Il circule donc dans un espace restreint, avec quelques allers-retours, et il regarde à gauche et à droite ce qu'il voit, en revenant parfois au même endroit. Par exemple, quand il est arrivé au Bouleterion, les portraits du Thesmothète, qui avait empêché l'invasion des Galates, sert de point de départ d'une longue digression sur les Galates, les Gaulois. On attendrait plutôt un discours sur le Bouleterion, ou sur le Métron, le sanctuaire de la Grande Mère. Un peu plus loin, la Tholos et les éponymes anciens mènent à une longue dissertation sur les éponymes récents, comme Attale et Ptolémée, mais aussi sur les rois d'Égypte et le roi d'Épire, Pyrrhos. Il est vrai que ces digressions sont développées pendant que le visiteur aperçoit en face, à quelques centaines de mètres, et longe le portique d'Attale, que vous connaissez tous, je suppose. Et ça fait parler d'Attale et des Galates, des Galaties, etc. Quand il arrive au temple de Zeus Olympien, en venant de l'Aglaoron, sur le côté est de la colline de l'Acropole, Pausanias parle d'abord, à l'endroit où il est, placé au point rouge, là devant le temple de Zeus Olympien, de la statue d'Adrien, qui se trouve à cet endroit. Puis, il fait une digression sur les monuments plus anciens qui se trouvent dans l'enceinte de cet Olympiaion. Jusque-là, tout est banal. Puis, il évoque, et c'est cela qui nous intéresse, le sanctuaire d'Apollon, appelé le Delphinion. Ensuite, les jardins avec le temple d'Aphrodite en Kepois, Aphrodite dans les jardins, qui se trouve au sud et au sud-ouest de ce qui se tient devant l'enceinte du temple de Zeus Olympios. Puis Pausanias se retourne, il regarde vers le sanctuaire d'Héraclès Cynosarge, Héraclès de la Chienne Blanche. C'est aussi un quartier. Après cela, le promeneur est invité à se tourner dans l'autre sens et à regarder vers le nord, vers le Lycée, cher aux philosophes, et le sanctuaire d'Apollon du Lycée, Lucaios. De là, son regard est attiré par l'Ilissos. Au nord-est, il est censé faire quelque part, au moins mentalement, au-delà de ce fleuve, vers le quartier nommé Agraï et vers son stade, que vous voyez. Après cela, il a fini avec ce secteur et revient vers l'Acropole et vers la rue des Trépieds, que vous connaissez, puis le temple de Dionysos, et ainsi de suite. À chaque fois, Pausanias décrit des monuments, disparus ou non, et des mythes. Ce qui nous intéresse plus particulièrement est que son lecteur est supposé apercevoir tous ces monuments comme s'ils se trouvaient à chaque fois devant eux, sans qu'il soit question des édifices qui barrent éventuellement la vue. Par exemple, quand il est question du Lycée ou du temple d'Hercule Cynosarge, Il y a certainement des bâtiments entre le point de vue du promeneur et ces lieux, mais on fait comme si on les voit directement, on les voit en quelque sorte mentalement. Nous retrouvons donc là un problème qu'on peut également rencontrer parfois dans les questions romaines, nous l'avons vu. Et comme Plutarque, Pausanias garde un silence presque complet sur l'histoire et les monuments ou les places du milieu du deuxième siècle de notre ère. Mon collègue Denis Knopfler et Sue Alcock notent, entre autres, le choix surprenant, parfois artificiel, des monuments commentés, que l'on peut rapprocher des choix de Plutarque. À Athènes, notamment, Sue Alcock a essayé de montrer que les monuments retenus permettent surtout de célébrer l'héroïsme des Grecs dans les guerres contre les Perses, peut-être pour souligner l'identité grecque et exprimer une résistance nuancée aux Romains. Une résistance culturelle, dirais-je, une façon de montrer que la Grèce existe aussi. On pourrait dire de la même manière que Plutarque organise ses choix de manière à évoquer uniquement les institutions vénérables et pittoresques de Rome, qui sont enracinées dans le trapèze situé entre le Forum des Bœufs, le Capitole et le Forum romain, et qui lui permettent de mettre en scène l'excellence morale des Romains. De ce tableau, il exclut ce qui est clairement dépassé, ou de son point de vue, en décadence, le système des assemblées politiques, et ce qui peut prêter le flanc à la critique, notamment à l'époque ou après la chute du tyran Domitien, autrement dit, tout ce qui se réfère aux lieux créés par l'Empire, et qui sont beaucoup plus politiquement marqués que les autres endroits. Et ainsi que Denis Knopfler l'a souligné, l'œuvre de Pausanias doit moins être comprise comme un guide de voyage, un Baedeker, que comme un guide pour, je cite, « lecteurs en chambre, mais désireux de faire un jour le voyage de Grèce, avec tout le bagage culturel que requérait un tel retour aux sources de l'hellénisme ». Cela peut s'appliquer littéralement aux questions romaines de Plutarque. Et surtout, si jamais l'hypothèse que les questions grecques aient fait un ensemble, un diptyque avec les questions romaines, il y avait aussi les questions barbares. Bon. On peut comprendre que d'un côté comme de l'autre, ça peut inviter au voyage. Il apparaît donc clairement, je crois, que les questions romaines ne sont pas un texte isolé. Plutarque lui-même, dans d'autres documents, dans d'autres ouvrages, ou alors Pausanias, organise leur périégèse d'une manière analogue. Mais ce qui demeure exceptionnel dans les questions romaines, c'est que Plutarque n'y fasse jamais explicitement allusion aux monuments qui déclenchent les questions. Les autres auteurs se dispensent à l'occasion de mentionner les monuments qui suscitent une discussion. On l'a vu chez Plutarque lui-même, Jean Pouilloux l'a rappelé pour certaines des digressions ou des discussions de Pausanias, mais peu importe, ces auteurs ébauchent toujours brièvement le cadre. Et on voit la progression éventuellement, et surtout chez le périégète Pausanias. Cette technique de la visite ou de la construction d'un cadre topographique et temporel est d'ailleurs bien connue dans les milieux philosophiques. Sans remonter jusqu'à Platon lui-même, nous pouvons citer un passage des prolégomènes anonymes à la philosophie de Platon qui décrivent un texte scolaire, qui décrit les aspects formels des dialogues platoniciens. L'auteur a considéré la description des personnages qui dialoguent et vient ensuite au contexte spatio-temporel. D'abord, dit-il, quant au temps, Platon a donné ses dialogues non pas dans n'importe quel temps, mais à un moment où avaient lieu des solennités ou des fêtes en l'honneur des dieux. Pour qu'à ce moment, ces écrits soient récités et déclamés comme des hymnes. Puisqu'au cours des fêtes, nous avons coutume de faire entendre des hymnes. En tout cas, il a donné le Timée lors des Bindidi, le Parménide lors des Panathénées, et d'autres dialogues en d'autres jours de fête. En voilà assez concernant les circonstances de temps. Donc vous voyez que c'est la même technique. On raccroche un débat à une fête, à un lieu approprié du calendrier. Et les jours religieux sont des jours où l'on parle de choses philosophiques. De la même manière, à Rome, Cicéron ou Varron, par exemple, donnent à leur dialogue le cadre d'une fête, la fête des féries latines, pour Cicéron, ou des sementalia, pour Varron. Soit par imitation platonicienne, soit parce qu'ils s'inscrivent dans une tradition désormais bien établie. Mais poursuivons la lecture de l'anonyme. Pour ce qui est du lieu, c'est ça qui nous intéresse. Que dit-il ? Platon le veut différent pour chaque dialogue. Du vivant de Socrate, Platon plaçait la scène de ses dialogues à Athènes. Mais, après la mort de Socrate, il ne les a plus placés à Athènes parce qu'il jugeait les Athéniens indignes de paraître dans ses entretiens. En tout cas, il a placé le banquet dans la maison d'Agathon, la République au Pirée, le Phèdre dans le sanctuaire des nymphes, le Timée non pas dans un lieu particulier, mais dans la cité. Et d'autres dialogues en d'autres lieux. En voilà assez pour les circonstances des lieux. Rappelons encore que la promenade comme cadre d'une discussion érudite ou comme cadre de l'enseignement est elle-même traditionnelle, tout à fait traditionnelle, du moins après Platon. Et il faut savoir que cet exercice était surtout diffusé dans l'académie, dont dérive également la technique des problèmes et des questions, telles que les pose Plutarque et ses amis. L'école d'Aristote dérive même son nom de la promenade, du péripatos, les péripatéticiens. Mais c'est aussi un peu le mythe fondateur que se donnait l'école d'Aristote. Mais en fait, le péripatos, la promenade, était un moyen d'enseignement normal. On se promenait quand on enseignait. Donc le déplacement de gens qui débattent des questions érudites n'est pas quelque chose, le pur fruit du hasard. C'est une technique liée à l'enseignement, notamment. Rappelons aussi, à Rome cette fois-ci, que le thème de la promenade à travers Rome est un thème tout à fait traditionnel. Pensons à la promenade d'Énée chez de ses amis, chez Virgile, qui au livre 8 de l'Énéide, vers 337 et suivant, va du Forum Boarium par la future porte de Carmenta, d'où il se fait montrer le Lupercale, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? La roche tarpéenne et le Capitole, en remontant le Vicus Jugarius, vers la zone du Forum, un chemin que nous avons pris au moins 3 fois. Le bref parcours de Strabon, à l'époque d'Auguste aussi, est différent. Il nous mène du Champ de Mars et du Mausolée d'Auguste vers le Forum, le Capitole, le Palatin et l'Esquilin. Un parcours différent et qui est beaucoup plus politique. Mais il vient du nord, il vient de la Via Flaminia, le Corso, n'est-ce pas ? Il entre par le Corso dans le centre de Rome. Et il n'y a aucune raison pour lui, qui est un autre objectif, d'éviter les lieux politiques comme par exemple le mausolée d'Auguste ou le Palatin, etc. L'intention de Plutarque peut avoir été de mettre en scène une promenade de ce type, avec des arrêts, durant lesquels est explorée une série de problèmes en relation avec les monuments voisins, ou du moins visibles. Le choix des thèmes à discuter était commandé par le paysage urbain qui s'offrait aux yeux. Varron et Cicéron également placent leur dialogue en des lieux différents. Le dialogue varronien des Res Rusticae au temple de Tellus, les Tusculanes dans la villa de Cicéron à Tusculum, et ainsi de suite. Certes, il arrive que des auteurs organisent autrement, suivant d'autres principes, leurs ouvrages et leurs dialogues. Un quasi-contemporain de Plutarque, Aulus Gellius, que les Français appellent Olugel, précise dans la préface de ses Nuits Attiques qu'il donne les différents extraits dans son ouvrage, il jette comme cela sur le papier, sur le rouleau, les différents extraits de lecture dans l'ordre fortuit dans lequel ils ont été faits. Même si Plutarque, mais il n'est pas entièrement honnête, puisque dans les différentes fiches qu'il jette comme ça l'une après l'autre, à l'intérieur de chaque fichier, disons, pour utiliser un langage moderne, il y a souvent des petites scénettes. Par exemple, ils sont un jour à Tivoli, un après-midi chaud, ils discutent de questions quelconques, et ils ont besoin d'un livre. Alors ils envoient l'un d'eux au temple de Hercule, de Tivoli, chercher dans la bibliothèque le manuscrit en question, etc. Donc il y a quand même la tradition, on le voit, de la mise en scène. Il connaissait bien sa discipline. Même si Plutarque paraît de temps à autre suivre une même source, un peu comme Olugel, n'est-ce pas, un même auteur, une même fiche, comme par exemple à propos du thème de la lampe et de la table, rappelez-vous, lié à celui des vieilles prêtrises, il est indéniable qu'il organise sa matière surtout par rapport à la topographie. J'ai cité pour l'heure l'exemple d'autres dialogues de Plutarque, celui de Pausanias, de Virgile, où les règles communes de l'enseignement, et notamment dans l'école platonicienne et néoplatonicienne. Mais ce principe d'organisation dépasse de loin le dialogue philosophique. À l'état explicite ou implicite, nous le découvrons aussi chez les historiens romains, par exemple chez Tite-Live. Dans son ouvrage sur Livy's Written Rome, Mary Yeager démontre que Tite-Live présente l'histoire romaine comme une histoire de l'espace et de la mémoire. Il s'agit surtout du premier livre de Tite-Live. En tant que les monuments sont appelés à conserver cette mémoire et à la matérialiser. Il peut être intéressant pour nous de relever que deux des lieux immédiatement remarqués et étudiés en détail par Mary Yeager sont celui qui concerne les Sabines et celui qui est lié à Manius Capitolinus. Vous ne serez pas étonné. On constate par cette coïncidence que les lieux et sujets de mémoire ne sont pas innombrables. Plutarque utilise les mêmes. Alors que Plutarque se réfère aux Sabins avant tout par rapport au grand cirque, Tite-Live préfère le forum, le comitium, l'endroit de la réunion politique. Il choisit le lieu de la bataille entre les Romains et les Sabins et de leur réconciliation célébrée par les tableaux, aboutissant à la naissance de la cité et du politique. Plutarque, quant à lui, privilégie le grand cirque, le rapte des Sabines, c'est-à-dire la fondation physique du peuple romain, de la famille romaine, qui contribue à sa manière à la naissance de la cité. Mais ce sont les mêmes lieux de mémoire. Mary Yeager conclut que dans le premier livre de l'histoire romaine de Tite-Live, les collines, le fleuve, les plaines de la ville imposent leur propre forme au récit des événements, alors même que le récit remplit le paysage de sens. La narration, écrit-elle, produit une topographie schématique qui est d'autant plus remplie de sens qu'elle est abstraite. Et bien entendu, comme la Rome de Plutarque, celle de Tite-Live ne contient pas tous les monuments et lieux significatifs de la vie réelle. C'est aux lieux qui semblent importants qu'il se réfère. Alors que les événements historiques isolés résident dans des monuments spécifiques, des enchaînements conceptuels se constituent si l'on se déplace dans le paysage d'un monument à l'autre. Pour se rappeler un ensemble d'événements, il faut se rappeler la manière correcte de se déplacer dans ce paysage de mémoire. Cette vision de la ville comme une trame conceptuelle cohérente implique qu'elle est vue d'en haut, écrit Mary Yeager, ou de l'extérieur, du point de vue du cartographe en quelque sorte, de la même manière que la perception d'événements comme formant une trame cohérente implique l'adoption de l'objectivité d'un narrateur omniscient. C'est un commentaire de mon cours, si vous voulez. Et comme l'écrit une autre chercheuse, Anne Vasily, la dépendance constante du visuel et du concret était la seule porte des Romains vers le monde des idées. Ici, nous voyons que ce n'est pas seulement les Romains, c'est plus généralement un des accès des anciens vers le monde de l'abstraction et de l'idée. L'histoire structurale de Rome est inscrite dans ces lieux, comme en autant de lieux de mémoire, monumentaux ou calendaires, rituels. C'est une histoire monumentale, suivant la formule de Mary Yeager. Les questions romaines sont littéralement des questions sur Rome, sur une certaine Rome. Nous pouvons donc considérer que les questions romaines s'inscrivent dans toute une lignée de textes qui fonctionnent de la manière que je viens de décrire. Mais pourquoi ce plan demeure-t-il implicite chez Plutarque? C'est ça qui nous irrite, n'est-ce pas? Les livres cités nous permettent d'exclure que l'ordre topographique des questions, avec toutes ses caractéristiques, soit dû au hasard. C'est exactement la même chose, seulement c'est implicite. D'ailleurs, si l'on récuse la structure topographique du livre, beaucoup de questions perdent tout lien avec les questions suivantes, et ça redevient un savant désordre. Mais puisque les liens thématiques entre beaucoup de questions sont évidents et que les enchaînements entre les questions sont très soignés, il serait surprenant que dans un livre aussi court et aussi bien composée, l'exposition générale puisse être aussi désorganisée au point d'introduire à plusieurs fois des répétitions. C'est inimaginable, si vous voulez. Sans cette référence topographique, Plutarque aurait, à mon avis, organisé différemment le plan de l'ouvrage. Et conformément aux conclusions de Anne Vesely sur la rhétorique de Cicéron et de Mary Yeager sur Tite-Live, c'est précisément un paysage de mémoire qu'on attendrait derrière ce texte. Si Jacques Boulogne a raison d'imaginer un ensemble plus large, un diptyque opposant les questions romaines et les questions grecques, et peut-être barbares, comme l'unité cohérente et fondée en raison, s'opposant à l'éparpillement et au désordre, on comprend la force que pouvait revêtir ce paysage urbain exposant en quelques dizaines de mètres, 10 hectares, 8 hectares à peine, les institutions et les coutumes les plus vénérables des Romains, face aux 1000 cités grecques et à l'agitation débridée du monde barbare. Mais même si l'on nous concède que l'enchaînement principal qui orchestre la composition des questions romaines est topographique, le problème posé par ce livre étrange n'est toujours pas résolu, car on ignore toujours pourquoi Plutarque a mis en scène, dans ses questions, le paysage urbain, sans le dire explicitement. Il aurait très bien pu, comme Pausanias, organiser, au moins au début, les premières lignes, une visite des vieux centres, et développer ensuite, il s'assoit quelque part, mettons, sur les marges du temple de Fortune, développer ses questions. Et cette interrogation est liée à une deuxième interrogation. Pour qui, Plutarque, écrit-il un livre comme celui-ci? Avant de tenter de répondre à ces questions, je voudrais rappeler d'abord que Plutarque recourt à cette technique dans d'autres ouvrages. Je l'ai dit pour l'utilisation explicite de la topographie delphique. Mais on peut aussi citer, par exemple, la vie de Thésée, dans ses vies parallèles, Thésée, hein, qui est presque entièrement construite sur le calendrier religieux et la topographie sacrée antique de l'Attique. Mais dans ce cas, la trame avouée existe, c'est une biographie, encore un peu désordonnée, et le seul élément structuré de la biographie, c'est la suite des grandes fêtes anciennes et des hauts lieux religieux de l'Attique. Il n'y a pas d'histoire, hein, il n'y a que ça. Pourquoi ce plan topographique ou monumental n'est-il pas explicite dans les questions romaines alors qu'elles ne possèdent apparemment pas d'autres plans? Deux types de réponses sont possibles, suivant le public auquel Plutarque destinait son livre. Quel est ce public? Jacques Boulogne se fonde sur plusieurs détails pour considérer que le livre s'adressait à des Grecs, à un public grec. Plutarque transcrit les titres, les fonctions romaines, il transcrit des mots latins, il les explique, il glose tel ou tel lieu ou telle institution, il fait des références à la communauté grecque par l'emploi du pronom personnel à la première personne du pluriel. Chez nous, c'est ainsi, ou comme c'est le cas chez nous, etc. Mais évidemment, ces références pourraient appartenir au genre de l'érudit grec décrivant Rome, écrivant notamment pour des chevaliers et des sénateurs d'origine grecque, ou romains, qui sont bilingues. Les romains parlent le latin et le grec, surtout quand ils sont un peu élevés socialement, ou pour leurs enfants. En tout cas, si Plutarque écrit pour un public hellénophone, résident ailleurs qu'à Rome, il faut imaginer que ces lecteurs disposaient d'un moyen pour comprendre les allusions topographiques des questions romaines. J'y reviendrai. Si l'œuvre était offerte, au contraire, et c'est tout à fait capable, à un Mestrius Florus, le patron de Plutarque, par exemple, qui aimait, d'après ce que l'auteur lui-même écrit, les vieilles coutumes, il était philarchaios, ami de l'archaïque, de l'ancien. Eh bien, ce Mestrius Florus, le sénateur romain et ses semblables, pouvaient facilement retrouver devant les questions romaines les monuments de Rome qui étaient en cause. La recherche des points de référence ou la compréhension du lien topographique, ces petites énigmes que j'ai signalées entre les questions, seraient même autant de clins d'œil de la part de l'auteur à son public érudit. Ce serait un jeu littéraire. Et effectivement, nous avons constaté, je le répète encore à plusieurs reprises, que la lumière sur la référence topographique ne se fait qu'une question ou deux plus loin. Ce jeu littéraire pourrait même être très raffiné. Imaginons que Plutarque a situé le lecteur éventuel de son œuvre, ou celui qui écoute son œuvre qui est lue par un lecteur, au Palatin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'auditeur, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, c'est l'empereur lui-même, puisque le Palatin, c'est la résidence impériale. C'était évidemment rendre un hommage très raffiné à l'empereur que de décrire les vieilles coutumes romaines, les plus fondamentales qui créent la grandeur de Rome, à partir des monuments que l'empereur pouvait percevoir de sa terrasse au moment même où on lui lit l'ouvrage. Mais, demanderai-je encore, pourquoi Plutarque n'a-t-il pas signalé cette relation à l'empereur, ou même à son ami Mestrius Florus, par une dédicace? Et pourquoi évite-t-il soigneusement alors toute allusion à l'œuvre des empereurs? C'est quand même un peu gênant dans ce contexte de flatterie et d'hommage. Il existe une deuxième manière d'imaginer l'objectif de l'ouvrage. Puisque l'œuvre appartient à une époque tardive de l'activité de Plutarque, quand il vivait à Chéronée, en Béotie, on pourrait également établir un rapport entre l'exposition des opinions possibles sur les coutumes romaines les plus importantes et les jeunes gens, ses élèves, que nous avons vu mentionner tout à l'heure, qui venaient s'instruire auprès de lui. Dans ce cas, la disposition topographique pourrait servir de moyen mnémotechnique pour apprendre et pour se rappeler les données exposées dans les questions romaines. Ces lieux et ces monuments fameux, connus des élites de l'Empire, formaient des lieux de mémoire, des « landscapes of memory », des paysages de mémoire, comme écrit Sue Alcock, qui rappelaient immédiatement, quand on les connaissait, des histoires et des institutions. C'était un exposé, un dictionnaire, une petite encyclopédie, un abrégé d'une encyclopédie de culture et d'institutions romaines.
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec John Shedd. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé.
Gotta go!
Vous écoutez France Culture à Lens-le-Saunier sur le 90.6.
On recommence à avoir une vie normale. On a peut-être envie d'avoir des choses à soi, des choses qu'on se paie, qu'on s'achète, qui vous appartiennent, qui sont à vous, parce que vous avez fait quelque chose pour les avoir. Et tu vois, c'est peut-être la couleur de son pull, de son pantalon, de sa chemise, de je ne sais quoi. Que ce ne soit pas des choses qui soient plus ou moins imposées, de pouvoir choisir ce qu'on met sur son dos, en fin de compte, vraiment.
Du 5 au 26 avril, la précarité dans Terrain Sensible. Une série de 4 documentaires consacrés à la précarité, ou plutôt au précariat. L'ensemble des catégories très hétérogènes des personnes qui vivent un travail précaire. Stagiaires, travailleurs sans domicile fixe, double travail et travail flexible. 4 documentaires suivis d'un débat pour interroger le précariat d'aujourd'hui.
J'ai les moyens, hein, et je sais pas, ils peuvent mettre une loi, je sais pas, ils prévoient des dogènes. Je sais pas, après nous on paye par facilité, admettons ils nous avancent l'appartement et nous on paye par facilité tous les mois. Hein. Ils peuvent le faire ça, je sais pas, moi ils investissent dans des guerres, dans des trucs vraiment, je comprends pas.
Terrain Sensible, chaque mercredi du 5 au 26 avril à 15h.
Sur la première photo, j'ai 16 ou 17 ans. Je porte sous un veston de l'assistance publique un chandail déchiré. Mon visage est ovale, très pur. Mon nez écrasé, aplati par un coup de poing lors d'une bagarre oubliée. Mon regard est blasé.
Le plus important,
chaleureux, très
ce qui était le plus important pour moi, je l'ai mis dans mes livres.
France Culture, partenaire du coffret multimédia Jean Genet, un chant d'amour. Réunis pour la première fois, documents rares et inédits éclairent les multiples facettes de l'œuvre de cet auteur majeur du XXe siècle, mort il y a tout juste 20 ans.
Je ne suis plus près dans ce que j'ai écrit, parce que vraiment je l'ai écrit en prison.
DVD, CD, audio, livre, portrait Jean Genet, un coffret unique à découvrir actuellement en librairie et dans les émissions de France Culture. France Culture, partenaire des rencontres chorégraphiques de l'Afrique et de l'Océan Indien, du 24 au 30 avril, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. 11 compagnies, sélectionnées parmi une centaine de candidatures de 31 pays, pour témoigner de la richesse et de la diversité de la jeune danse africaine contemporaine. Coup de projecteur sur des artistes qui parlent français, malgache, anglais, portugais, moré, zoulou et bien d'autres langues, mais qui ont tous en commun le langage de la danse, si présente dans la culture et la vie africaine. Rencontre chorégraphique de l'Afrique et de l'Océan Indien, une édition 2006 exceptionnelle, puisque pour la première fois à Paris, au Théâtre de la Cité Internationale, du 24 au 30 avril, avec France Culture. Un événement présenté dans le cadre de Francophonie, le Festival francophone en France.
Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire, les amitiés intellectuelles. Ce matin, un documentaire revient sur le voyage en Chine en 1974 de quelques intellectuels de la revue Telle Quelle. Voyage où l'engouement l'emporte sur l'analyse de ce qui se passe réellement sous Mao Zedong. 10h, le temps des humanités, tire ta langue, tourne les pages des carnets d'un francophone, ceux écrits par Jean-Marie Borzax, ancien directeur de France Culture, invité de l'émission, et qui est aujourd'hui conseiller à la présidence de la Bibliothèque nationale de France et président des francophonies en Limousin. 11h, fiction en feuilleton, lettre d'Engadine de Franck Venaille, 4e épisode. Enfin, 11h30, les chemins de la connaissance nous font découvrir dragons, gargouilles et tarasques, métamorphose de cet animal fabuleux, apocalyptique en Occident, protecteur en Orient, en tout cas symbole de puissance et dont la rencontre ouvre toujours le champ d'une épreuve initiatique. Invité ce matin, Patrick Absalon, docteur en histoire de l'art, commissaire exécutif de l'exposition « Dragons entre science et fiction », à voir jusqu'au 6 novembre 2006 au Muséum national d'histoire naturelle. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand.
Bonjour à tous, bienvenue sur France Culture, il est 6h58, le programme de ce jeudi 20 avril 2006 avec les enjeux internationaux à 7h20 sur la Libye. Peut-on parler de tensions au sein du régime? 7h40, l'amour, oui l'amour, ah l'amour, l'amour est au programme de l'émission ce matin. On va parler d'une exposition qui a ouvert ses portes à Paris il y a 15 jours à la Maison de la Villette. Elle s'intitule « L'amour, comment ça va ?» et on la doit à deux commissaires d'expo dont ce n'est pas le métier, l'historienne Arlette Farge et la sociologue Rosemarie Lagrave. Scénographie Isabelle Allégret et Patrick Bouchain. Toute cette équipe a conçu un parcours photo, vidéo et art plastique pour montrer au fond l'énergie créatrice de l'amour qui illumine, nous dit l'exposition, la sphère privée mais également l'espace politique et social. En substance, des émois intimes aux luttes militantes, c'est le même courant et la même électricité. L'exposition se situe donc entre l'art, l'intime, le politique. Elle explore et documente les nouvelles formes de couple. Chacun fait ce qu'il peut en la matière. Les nouvelles forme de famille, les points aveugles de la sexualité et dans un autre registre donc le travail associatif qui est également décrit comme le lieu d'un amour. On essaiera de comprendre avec nos invités tout à l'heure de quel amour il s'agit là très précisément. Alors nos invités justement, Arlette Farge, l'historienne que connaissent bien les auditeurs de France Culture, et Philippe Mangeau qui est membre de la rédaction de la revue Vacarme. Il est également ancien président d'ACT UP et il participe au livre collectif qui accompagne cette exposition. Le livre s'intitule 7 images d'amour et il est publié par les éditions Les Prairies Ordinaires. Voilà donc pour le programme, il est 7h. Première édition du journal sur France Culture, Renaud Candelier. Bonjour Renaud.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors que la trêve hivernale se termine, les associations d'aide aux sans-abri font un constat difficile. De plus en plus de personnes qui vivent à la rue travaillent, un phénomène qui s'accentue. Les mesures annoncées hier par Catherine Vautrin ne sont pas suffisantes aux yeux des associations qu'elle a rencontrées. Reportages et témoignages dans ce journal. Comment l'État français a cherché à dissimuler l'information sur le nuage de Tchernobyl, c'est ce que cherche à prouver une juge d'instruction. 500 malades sont partis civils dans ce dossier. Le point sur l'enquête avec Jean-Claude Pajac. Berlusconi ne lâche pas son rival qui a pourtant remporté définitivement le scrutin italien. L'ancien président du Conseil veut montrer que Romano Prodi aura beaucoup de mal à gouverner sans véritable majorité. Explication de l'éditorialiste italien Sergio Romano. Enfin, George Bush tente de se refaire une santé politique. Il poursuit son remaniement en vue des élections parlementaires de novembre. Les détails de Pierre-Yves Dugas. Les associations dénoncent une fausse réponse à de vrais problèmes. Après le plan triennal pour l'hébergement des sans-abri présenté hier par Catherine Vautrin, avec 50 millions d'euros, ce plan prévoit de pérenniser 5000 places, jusque-là seulement ouvertes l'hiver. C'est un premier pas pour la période plus chaude, mais insuffisant pour la plupart des acteurs de terrain. Reportage de Benoît Buquet.
La trêve hivernale est à peine terminée et certains centres d'hébergement d'urgence ont fermé leurs portes, laissant les sans-abri à la rue jusqu'au prochain hiver. 87 000 personnes vivent encore dans la rue en France, selon la Ligue des droits de l'homme. À 27 ans, Salim est sans-abri.
Ça fait depuis, on va dire, le 31 décembre 2004 précisément que je suis à la rue. Depuis, je suis parti de centre d'hébergement d'urgence en centre d'hébergement d'urgence. Je préférerais justement avoir un appartement sain.
Pour les associations, l'urgence, ça ne suffit plus. Il faut des hébergements durables à l'année. Florian Borg, de Médecins du Monde, explique ses attentes pour l'avenir des sans-abri.
C'est qu'on propose aux personnes qui sont dans la rue ce qu'on appelle un hébergement durable et adapté parce qu'on sait que les publics sont différents et qu'il y a besoin sur certains de régler des pathologies médicales, sur d'autres c'est une question sociale. Donc on attend de cette question d'hébergement durable qui ne serait résume pas à de l'urgence qui dure, mais qu'il faut bien trouver une réponse à ce niveau-là.
Pour les associations, le plan triennal annoncé par Catherine Vautrin est encore trop timide. La ministre répond que le budget du gouvernement pour l'hébergement d'urgence est déjà important.
Il y a, avant de commencer l'année, 900 millions pour l'urgence en France, auxquels nous rajoutons des sommes. C'est ça, aujourd'hui, l'effort de la nation française, c'est pratiquement 1 milliard d'euros pour s'occuper de nos concitoyens qui sont dans une situation d'urgence et d'exclusion.
Aujourd'hui, 90 000 places sont ouvertes à l'année pour les sans-abri. Un tiers seulement dans des foyers de réinsertion sociale. Et les deux tiers de ces places sont donc dans des centres d'hébergement d'urgence.
Cette réponse par l'urgence ne satisfait pas les organisations qui font toutes le même constat. Il existe une nouvelle pauvreté de personnes qui travaillent, mais vivent dans la rue. Daniel Huège, secrétaire général du Cœur des Haltes des Amis de la Rue, une association d'accueil des personnes sans domicile.
Ça, c'est nouveau, hein. Si on se penche quelques années en arrière, on n'avait pas beaucoup de travailleurs. Mais aujourd'hui, pour avoir un logement, il faut avoir 3 bulletins de salaire. Il faut que le salaire corresponde, même des fois pour entrer dans des... Je me bagarre, moi, souvent, hein, pour entrer dans des lieux associatifs, il faut prouver que l'on travaille. On peut pas aller travailler si on n'a pas dormi. On peut pas aller travailler si on n'est pas propre. Donc, on est obligé, ils sont obligés d'accéder à des structures d'hébergement d'urgence où ils vont se mettre bien avec le gardien parce que les horaires ne sont pas respectés. Des fois, ils arrivent plus tard, des fois, ils arrivent plus tôt. Ça, il faut s'y réhabituer. Mais au HALT, par exemple, où notre public, hein, nous, quand on a ouvert la première HALT à la gare de Lyon en 95, on avait vraiment un public du clochard. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a 20% de personnes qui travaillent. Ça fait 3-4 ans. Et ça va en empirant.
Une interview réalisée par Omar Waman et Emmaüs estime que chaque jour à Paris, entre 4 et 6 familles se retrouvent à la rue. Une juge qui lance des perquisitions aux agences de presse sur des dépêches remontant à 20 ans après le 26 avril 1986. Marie-Odile Berthelat-Geoffroy enquête sur d'éventuelles victimes en France de la catastrophe de Tchernobyl. L'instruction porte sur des atteintes involontaires à l'intégrité d'autrui. La juge cherche à montrer que l'État a volontairement dissimulé des informations. Le point sur l'enquête avec Jean-Claude Pajac.
Plus de 500 personnes atteintes d'un cancer de la thyroïde se sont portées partie civile, mais pour l'instant, aucun lien n'a pu être établi entre ces cancers et Tchernobyl. Sur le plan judiciaire, c'est l'impact.